Je vous invite à la prière. Jésus, roi des rois, à qui d'autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie. Alors oui, merci. Merci pour ta parole. Par ton esprit, rends-nous attentifs à cette parole. Ouvre nos cœurs, nos intelligences à ce que tu veux nous dire ce matin. Oui, à chacune, à chacun, ce matin, viens adresser une parole qui relève, une parole qui guérit, une parole de vie. C'est notre demande, Seigneur. Amen. Je vous propose ce matin de méditer avec vous les psaumes 42 et 43. Deux psaumes qui, en réalité, ne forment qu'un tout, vous allez le comprendre. La forme, je vous l'ai dit, de mon message sera un peu particulière, puisque par trois ou quatre fois, je ne sais plus, vous allez être amené à entrer dans ce psaume avec le secours du psaume 42 tel qu'il a été mis en musique au temps de la Réforme. La forme un peu particulière vient tout simplement du fait que j'ai voulu utiliser un petit travail que j'avais fait sur ces psaumes au cours d'une petite conférence. Et c'est toujours difficile de synthétiser un texte. Alors j'espère simplement que je ne vais pas trop vous fatiguer. Mais je pense qu'avec ces pauses qui vont aérer un peu notre méditation régulièrement, nous arriverons au bout de cette méditation. Et mon souhait, c'est que le bien que ce travail m'a fait puisse vous être quelque peu redistribué. J'aborde donc, même si c'est la période des vacances et en principe de la joie, de la détente, j'aborde le thème du découragement, parce que ce thème, il est peu partagé. Et quand je dis découragement, je peux aller jusqu'à la déprime et à la dépression même. En tout cas, c'est ce que ce psaume va nous dire, me semble-t-il. Tout homme connaît à un moment donné ou un autre de sa vie l'expérience du découragement. Il y a, vous le savez, ces découragements passagers qui ne durent qu'un instant, une journée, quelques journées. Découragement dû à la fatigue ou à une expérience difficile, ou parfois à des raisons qui resteront inconnues. Et puis il y a des découragements qui s'installent, qui durent plus longtemps et nécessitent parfois des soins et du repos. On parlera alors de dépression. Devant cette réalité, nous ne sommes pas égaux face à des situations adverses semblables, identiques, deux personnes vont réagir très différemment. Ce qui est sûr et qui nous touche au premier abord, c'est que les personnages bibliques et parmi les plus grands ont connu eux aussi ces temps de découragement. Pensez au prophète Élie. S'il y a un grand prophète, c'est bien Élie. Vous l'imaginez devant, sur le mont Carmel, devant tous les prophètes de Baal. Mais peu après cet événement, fuyant devant la reine Jézabel, Élie en arrive à dire, 1 roi 19, verset 4, « C'en est trop, Seigneur, maintenant, prends ma vie. » Pensez à Job, ou encore à Jérémie, un autre prophète. Parmi les plus sympathiques, les plus sensibles, Jérémie. Jérémie, dans un temps d'accablement, dira, Jérémie 20, verset 14, « Maudit soit le jour où je suis né. » Le jour où ma mère m'a mis au monde, maudit soit celui qui a porté à mon père la bonne nouvelle de ma naissance. Mais il y en a d'autres. Moïse, le grand Moïse, il a eu ses périodes d'accablement, de découragement. Saül, chez Saül c'était chronique cet esprit d'abattement. Mais Jonas, qui finalement accomplit ce que Dieu lui demande, à la fin du livre de Jonas, Jonas dit « Oui, je fais bien de m'irriter contre toi, Seigneur, et je préfère mourir. » Alors, ces moments de déprime, de découragement, nous devons bien prendre acte qu'ils font partie de toute vie humaine, mais aussi de la vie du chrétien. Et je pense que nous avons tort de masquer, de cacher cette réalité. Nous pourrions bien mieux aider et accompagner celles et ceux qui traversent ces temps d'abattement. Alors on le sait, quand le découragement est là, rien ne va plus. On n'éprouve plus l'envie d'aller de l'avant. On se sent vidé. À quoi bon ? À quoi bon persévérer ? On devient sombre, triste, irritable. Et même souvent, on s'isole. La foi perd sa saveur et on n'a plus le goût à la prière, ou on a moins le goût à la prière et à la lecture de la Bible, à la méditation. De plus, comme je l'ai sous-entendu, ces situations d'effondrement sont difficiles à partager pour le chrétien. Il a peur d'être jugé, qu'on pense qu'il a moins de foi qu'un autre, et peur d'entendre toujours les mêmes paroles qui sont fraternelles, mais souvent inappropriées. Alors écoutons ce psaume d'un déprimé. Non pas pour nous complaire dans cet état, mais pour voir comment le psalmiste va sortir de ce cycle qui le tire vers le bas. Je vous lis les psaumes 42 et j'enchaîne avec le 43. Ce sont de beaux psaumes. Comme une biche soupire sur le lit du torrent, ainsi je soupire après toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je paraître devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, alors qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Voici pourtant ce dont je veux me souvenir, quand je me répands sur moi-même. Je marchais avec la foule, je m'avançais avec elle jusqu'à la maison de Dieu. Dans les cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fait. Pourquoi être abattu? Pourquoi gémir sur toi-même? Attends Dieu, espère en Dieu. je le célébrerai encore pour son salut. Mon Dieu, je suis abattu. C'est pourquoi je me souviens de toi depuis le pays du Jourdain, les sources du Jourdain au nord, depuis l'Hermon, depuis le mont Mitzéar. L'abîme appelle l'autre abîme au bruit de tes cascades, tous tes flots, toutes tes vagues ont passé sur moi. Le jour que le Seigneur dépêche sa fidélité et que la nuit son chant m'accompagne, c'est une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon roc, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher l'air sombre sous l'oppression de l'ennemi? Alors que mes os se brisent, mes adversaires m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi être abattu? Pourquoi gémir sur toi-même? Attends Dieu, je le célébrerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Et j'enchaîne avec le 43. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Donne-moi d'échapper aux hommes trompeurs et injustes. Tu es mon Dieu, ma forteresse. Pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi dois-je me traîner l'air sombre sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta loyauté, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sacrée et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse. Je te célébrerai sur la lyre, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi être abattu? Pourquoi gémir sur toi-même? Attends Dieu, je le célébrerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Mon propos maintenant va être d'essayer de mettre en lumière quelques mouvements dans ce psaume qui soulignent une réelle situation de déprime, de découragement. Et comment le psalmiste va surmonter et dépasser ce découragement. Mais avant cela, quelques mots sur l'auteur. Eh bien, nous ne savons pas qui est l'auteur de ce psaume. On peut, avec les quelques éléments que nous donne le psaume, penser à un déporté, un prisonnier qui est en route vers une terre étrangère et qui s'apprête à quitter le sol de son pays. Il est tout au nord pour passer en terre païenne et il jette un dernier regard vers son pays et son Dieu. On peut penser à un exilé dans le nord qui a été injustement écarté de sa charge. Ce psaume est en fait un long monologue. Le psalmiste se parle à lui-même. Tour à tour, il reprend, il encourage et exhorte son âme, son être intérieur, son moi profond. Un monologue qu'il s'adresse à lui-même et qui parfois s'adresse à Dieu, qui va être coupé trois fois par un refrain toujours le même. Pourquoi te décourager, mon âme, pourquoi gémir ? Espère en Dieu, lui, le salut de ma personne. Cette traduction est assez proche du texte hébreu qui dit « Lui, le salut de mon visage », tant il est vrai que le déprimé a plutôt un visage sombre et terne. Et lorsque l'on est libéré de ce découragement, alors le visage redevient souriant. Ce refrain va casser le processus de la déprime. Nous allons y venir. Et j'invite Daniel à nous projeter la première section sur laquelle nous allons nous arrêter. Alors peut-être que ma traduction va un peu différer, mais « Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, moi aussi je soupire après toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je enfin entrer à nouveau dans son temple ?» La première partie du psaume exprime une situation de quête. « Mon âme languit, mon âme a soif de Dieu, une soif à en mourir. » On n'est pas là dans le style poétique ou mystique. Cette soif est une soif à en mourir. Très concrètement, le psalmiste a perdu la présence de Dieu, cette présence qu'il ressentait si fortement dans son temple. Il souffre de cette absence. Voilà, au verset 3, « Je voudrais de nouveau être devant Dieu, je voudrais revoir la face de Dieu, quand paraîtrai-je devant sa face ?» On peut ici observer un premier aspect de la déprime. C'est l'enfermement dans le passé. Un passé qui est d'ailleurs souvent idéalisé. Avant, j'étais quelqu'un. Je marchais à la tête de toute la procession. On peut imaginer qu'il était chef des chantres. J'avais une situation en vue. Et puis tout a basculé. Les spécialistes nous disent que la dépression est le contraire du deuil. Le deuil, c'est quoi? C'est pas à pas prendre acte d'une perte et reconstruire l'avenir avec de nouveaux éléments. On clôture le passé, c'est parfois difficile, et on s'ouvre à ce qui est devant. Notre vie est remplie de deuil depuis notre naissance jusqu'à son terme, ici-bas. Certains n'ont pas grande importance, mais d'autres peuvent être tragiques et douloureux, notamment la perte d'un être cher. La dépression, c'est le contraire. Je remâche un passé, mon passé qui est idéalisé, un passé où j'étais au centre, où j'avais une place importante, et puis tout s'est écroulé. Le dépressif n'a plus la force d'affronter ni le présent, ni l'avenir. Pour lui, le temps se réduit à un moment passé qu'il aimerait retrouver tel quel. Et nous abordons le deuxième paragraphe, le deuxième chapitre qui va apparaître. Mon Dieu, je suis abattu, c'est pourquoi Je me souviens de toi depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon. Cette attitude est un début de solution, une bonne disposition vers la guérison. Car se souvenir de Dieu, c'est faire mémoire de toutes les œuvres de Dieu. C'est faire mémoire, pour le psalmiste, de la sortie d'Égypte, de toutes les délivrances qui ont accompagné la marche du peuple de Dieu dans le désert. C'est évoquer la prise de Jéricho. Mais voilà, les versets 8 à 11 qui suivent montrent que le psalmiste n'est pas encore prêt à affronter son avenir. Sa vie, dit-il, est maintenant comparable à un abîme sans fin. Il est roulé par les vagues et les remous qui le ramènent toujours à la case départ. Un abîme appelle un autre abîme. Au bruit de tes cascades, toutes tes vagues et tes remous ont passé sur moi. Pourquoi dois-je vivre accablé? Pourquoi laisses-tu mes ennemis m'écraser? Alors ici, il est probable qu'il s'agit certainement d'ennemis bien concrets. Mais je profite de l'occasion pour souligner un autre aspect caractéristique du déprimé. Il a besoin de désigner des responsables. Et s'il n'y en a pas, il s'en prendra à Dieu, s'il est croyant. C'est ainsi qu'une lecture attentive de ce psaume nous permet de relever pas mal de symptômes psychosomatiques. Le corps brisé, les larmes, l'esprit abattu, l'insomnie, nuit et jour, la tristesse, le visage sombre, l'obscurité. Mais voilà, arrive le refrain, à quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le célébrer et le louer à nouveau. Lui, mon sauveur et mon Dieu. Le refrain vient couper le discours du psalmiste qui s'était remis à tourner en rond. Progressivement, insensiblement, le discours va évoluer. Et nous abordons le psaume 43, la dernière étape. Rends-moi justice, ô Dieu, car c'est toi, Dieu, qui es mon protecteur. Fais-moi voir ta lumière et ta vérité. Dieu, ma plus grande joie. La fenêtre s'ouvre enfin. Seigneur, je suis dans la difficulté, d'accord, mais je regarde à toi. Dans cette troisième strophe, les éléments de tristesse et de découragement sont remplacés peu à peu par la prise de conscience de la fidélité de Dieu. Quelle que soit l'obscurité qui voile encore son âme, Dieu reste sa lumière, ta lumière, ta fidélité me ramèneront dans ta demeure. Alors peut-être que le psalmiste ne se retrouvera pas à nouveau dans le temple physiquement de Jérusalem, mais il sera à nouveau près de son Dieu, dans une communion retrouvée, Dieu de sa grande joie. Et avec toi, Seigneur, je pourrai redémarrer quelque chose de nouveau. Puis le refrain final, à quoi bon me désoler, à quoi bon toujours me plaindre? N'est-il pas mieux d'espérer et de louer à nouveau le Seigneur, lui, notre Sauveur et notre Dieu? Vous le sentez, les termes du refrain sont inchangés, mais le ton est différent. Si, après le découragement qui émane du premier refrain, puis la confusion pour le psalmiste exprimée dans le deuxième refrain, voilà que le dernier refrain est une déclaration annonciatrice de la victoire dans la foi et par la foi. On est surpris par la traduction de ces psaumes qui traduit si bellement le texte biblique. Alors je conclus ma réflexion en soulignant deux points. Beaucoup de théologiens ont mis en évidence le fait que le déprimé fonctionne souvent avec une théologie des œuvres. Comme le prophète Élie, le psalmiste a fait résider toute son identité sur ses moments de réussite, quand tout allait bien. Consciemment, ou plutôt inconsciemment, sa propre existence était justifiée par sa mission, par les actes, les œuvres qu'il accomplissait. Plus ses œuvres étaient brillantes et fécondes, plus alors son identité était affirmée. Mais que ses œuvres disparaissent, alors il n'a plus d'identité. Et pensez à Élie qui va devoir faire une expérience à la fin de son parcours d'effondrement. Dieu se révélera à lui dans un souffle ténu et léger. Et le prophète comprendra que Dieu ne l'a pas abandonné. Alors combien de personnes aujourd'hui qui n'existent qu'au travers de leurs œuvres, et je ne parle pas du monde autour de nous, mais même de l'Église, combien d'entre nous, finalement, n'existons qu'au travers de notre réussite professionnelle. Et au passage, l'étude que j'avais faite était pour des pasteurs. Et les pasteurs sont en général très sensibles à cet effondrement à certaines périodes de leur vie, notamment quand leur ministère ne porte plus apparemment les fruits qu'ils pourraient espérer et attendre. Combien de personnes qui n'existent qu'au travers de leurs œuvres, réussite professionnelle, réussite familiale, réussite sociale. Mais voilà, que la maladie advienne, que la personne perde son boulot, ou alors que le couple se sépare. Ces personnes ne sont plus rien. Pourquoi ? Parce que toute leur identité repose dans le faire, dans leur action. Pour beaucoup, hélas, leur identité n'est pas le nom que leur père leur a donné. Et quand nous on dit ça, on pense à celui qui est notre géniteur premier, Dieu, notre Créateur. Notre identité, pour beaucoup, ne réside pas dans le nom que Dieu nous donne, mais dans ce que nous faisons. Alors quand les événements ne nous permette plus de nous tenir au même rang, c'est l'effondrement. La personne ne peut plus s'aimer, elle sombre dans le découragement, elle patine, elle s'enlise, elle pense même qu'elle ne vaut plus rien. Mais voilà la découverte qu'a fait le psalmiste, et je l'ai dit, qu'a fait aussi le prophète Élie, c'est que Dieu nous aime, non pas pour ce que nous faisons, mais pour ce que nous sommes. Et celui qui traduit peut-être le mieux dans la Bible cette réalité, c'est le prophète Ésaïe, au chapitre 43. Le Seigneur dit aux enfants de son peuple, donc à nous tous, « Sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, c'est-à-dire l'adversité, les difficultés, je serai avec toi, car tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. » Bien sûr, quand nous lisons ces paroles, nous ne pouvons faire autrement que de voir le Christ qui accomplit pleinement cette réalité et qui va nous racheter au prix de sa mort sur la croix, du don de sa vie. Car nous avons du prix à ses yeux et il nous aime. Et puis dernière remarque concernant le refrain. Pourquoi être abattu et gémir? Espère en Dieu. Au travers de ce refrain, le croyant est invité à relever la tête. Là où la créature ne voit que détresse, abandon, défaite, le croyant aperçoit et discerne l'invisible. Sa détresse, son découragement ne sont pas niés. Ils sont bien là, mais il y a possibilité pour lui, dans l'abandon entre les mains de Dieu, dans la foi, dans la confiance, possibilité de dépasser, de surmonter ces obstacles. Espère en Dieu, attends Dieu. Dans le calme, dans la confiance, le Dieu que le psalmiste a servi, a chanté, a loué, a aimé, ce Dieu-là, le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ, ne le délaissera pas. Alors mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, notre Sauveur et notre Dieu, lui qui est délivrance de notre visage. Amen.